Dimanche dernier, dans son introduction, Paul Serre a souligné avec raison le peu de communication dans la société en général et dans les médias en particulier autour de Pâques. Cela m'a fait réfléchir et m'a conduit à relire quelques passages de l'évangile de Jean qui précèdent la passion de Jésus et sa mort à la Pâque. Ces lectures m'ont amené à faire une pause dans la série en cours sur les grandes questions opposées à la foi chrétienne pour méditer avec vous ce matin un passage des évangiles qui précède Pâques et la mort de Jésus. En fait, Jésus et ses disciples sont dans la chambre haute, encore dans la chambre haute. Judas vient de sortir pour aller trahir Jésus. Bientôt, ils partiront à Gethsémané. Bientôt commencera la passion de Jésus. Bientôt, Jésus sera arrêté, puis crucifié. Je vous invite à lire le texte qui va servir de support à notre méditation. Nous sommes donc dans l'évangile de Jean. Je commence au chapitre 13, verset 31, et je lis jusqu'au chapitre 14, verset 6. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit : « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. » Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, je suis encore pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pourrez venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié trois fois. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ? » Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le premier point que j'aimerais aborder, que j'aimerais développer, c'est que parfois, nos cœurs se troublent. Premièrement, nous allons le considérer pour les disciples dans le texte, et puis nous verrons pour nous-mêmes. Depuis le début du repas, dans la chambre haute, sans doute le repas de la Pâque, les mauvaises nouvelles se sont enchaînées, suscitant de la tristesse et de l'incompréhension chez les disciples. Tout devant eux semble maintenant obscur, sujet d'inquiétude, et peut-être même d'angoisse. Leurs cœurs sont troublés. En effet, il y a eu tout d'abord l'annonce de la trahison d'un des leurs. qui livrera Jésus. Comment est-ce possible ? Une annonce qui les laisse perplexes. Je lis les versets qui précèdent ce que nous venons de lire. Je commence au verset 21. Après avoir ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et fit cette déclaration. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres et se demandaient de qui il parlait. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché à table près de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe et lui dit « Demande qui est celui dont il parle. » Et ce disciple se pencha sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus lui répondit « C'est celui pour qui je tremperai le morceau et à qui je le donnerai. » Il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que Judas eut reçu le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. En effet, comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou donne quelque chose aux pauvres. » Judas prit le morceau et sortit aussitôt. Il faisait nuit. À cette annonce de la trahison de Judas va s'ajouter celle du départ énigmatique de Jésus. Je relis le verset 33. « Petits enfants, je suis encore pour peu de temps, avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pourrez venir. À vous aussi, je le dis maintenant. » Cette annonce de son départ interroge les disciples. Verset 36, Simon-Pierre demande au Seigneur où il compte aller, et Jésus lui répond que là où il va, il ne peut pas le suivre maintenant. Verset 38, fidèle à lui-même, Pierre ne comprend pas et dans un élan spontané du cœur, il dit à Jésus qu'il est prêt à donner sa vie pour lui. Cette déclaration solennelle de Pierre va amener Jésus à annoncer son reniement à la fin du verset 38. Une annonce qui, à la suite de toutes celles qui ont précédé, laisse les disciples troublés, profondément troublés, au point que Jésus va leur dire « Que votre cœur ne se trouble pas. » Voilà pour les disciples. Voilà pour l'explication du trouble de leur cœur. Et nous, qu'en est-il de nous ? Nos contextes, nos circonstances de vie n'ont bien évidemment rien à voir avec ce qui s'est passé dans la chambre haute. Cependant, nos cœurs aussi, parfois, se troublent. Ils se troublent car nous sommes confrontés à toutes sortes de choses qui nous bousculent dans notre vie ou dans celle de ceux que nous côtoyons, que nous aimons. Nos cœurs se troublent parce que nous sommes des êtres pleins de fragilité, liés à notre humanité. Nous aimons donner le change. Mais nous sommes peu de choses. Ainsi, nous connaissons des épreuves, la maladie, la souffrance, la méchanceté des hommes, l'injustice, l'incompréhension, la perte d'être cher, et j'en passe, et nos cœurs se troublent. Nos cœurs se troublent. Nos états d'âme peuvent aller de la petite inquiétude à la peur, jusqu'à l'angoisse qui dévore. Jusqu'au désir, parfois même, de mourir. Oui, il nous arrive de souffrir. Il nous arrive de pleurer. Il nous arrive de douter. Il nous arrive de désespérer. Nos cœurs se troublent aussi parce que nous vivons dans un monde déchu, un monde où règnent le péché et le mal, un monde régi trop souvent par la loi du plus fort, un monde où font rage tant de guerres, tant de situations injustes, un monde que nous aimerions idyllique, mais qui ne l'est pas. Oui, tout cela et bien plus encore fait que nos cœurs se troublent. Ce trouble de la guerre en Ukraine, ce trouble de toutes les conséquences économiques qui découlent des crises qui se succèdent. Ce trouble et ce trouble encore, si facilement, comme le cœur des disciples dans la chambre haute. Devant le trouble de ses disciples, Jésus va leur adresser une parole de réconfort. Que votre cœur ne se trouble pas. C'est le troisième point, c'est l'invitation de Jésus. Notons avant de réfléchir au sens de cette parole que Jésus lui aussi, dans la perspective de ce qui était à venir, est troublé dans son âme, troublé dans son esprit. Voici ce qu'il disait quelque temps auparavant dans Jean 12, verset 27. « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Et puis voici ce que Jean écrit de Jésus dans la chambre haute. Nous l'avons déjà lu au moment d'annoncer la trahison de Judas. Après avoir ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et fit cette déclaration. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Ce qui était en ligne de mire pour Jésus était sans commune mesure avec ce qui attendait les disciples. C'est lui qui aurait dû être encouragé. Et c'est lui qui, malgré cela, encourage ses disciples. Quel désintéressement de soi et quel amour pour les siens. Revenons à l'invitation de Jésus à ses disciples. Que votre cœur ne se trouble pas. Que c'est vite dit. Que c'est facile à dire. Pourtant, ces paroles de Jésus ne sont pas du réconfort à bon marché. C'est du solide. C'est du solide parce que ces paroles sont basées sur du solide. Elles méritent d'être entendues. Elles méritent d'être accueillies car Jésus a le pouvoir, la capacité d'apaiser les cœurs, d'y mettre sa paix, une paix qui surpasse toute intelligence, une paix alors même que tout les pousse à la crainte et au trouble. Associé à l'appel que votre cœur ne se trouble pas, Jésus lance parallèlement un appel à la confiance, un appel à la foi. Croyez en Dieu. « Croyez aussi en moi, dit-il. » Cet appel à croire en Dieu et en lui est le premier socle, la première base de son invitation. C'est parce que nous croyons en Dieu, c'est parce que nous croyons en Jésus que nos cœurs peuvent véritablement et efficacement s'apaiser. Une simple invitation à ne pas s'inquiéter, comme nous pouvons en formuler régulièrement, est un vœu pieux, une manifestation d'amour sans doute, mais sans grande efficacité. Les paroles de Jésus sont tout autres. Nos cœurs peuvent s'apaiser, ne pas se troubler, parce que nous mettons notre confiance en Dieu et en Jésus. Notons ici que Jésus se fait clairement l'égal de Dieu, son Père. Ses paroles « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi » soulignent clairement sa divinité. Notons aussi que la forme verbale du verbe, la forme verbale en grec du verbe croire peut soit être traduite par un indicatif ou par un impératif. Et c'est pourquoi vous avez dans certaines traductions l'indicatif « vous croyez en Dieu et vous croyez aussi en moi ». Cependant, l'impératif ici semble bien plus approprié au contexte. La base d'un cœur paisible, malgré les circonstances parfois difficiles, c'est la foi, c'est la confiance en Dieu et en Jésus. C'est le choix de la confiance en Dieu et en Jésus à chaque instant. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Si l'invitation de Jésus est basée sur la confiance en lui et en son Père, elle est aussi deuxièmement basée sur ses promesses. De quoi s'agit-il ? Je relis les versets 2 et 3. « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Quelles sont les promesses faites ici par Jésus à ses disciples ? Premièrement, il leur promet d'aller leur préparer une place. Et puis deuxièmement, il leur promet de revenir les chercher pour les prendre avec lui. Commençons par la préparation d'une place. De quoi s'agit-il ? Quelle est cette place ? Et comment Jésus la prépare-t-il ? En fait, il y a deux aspects à souligner ici. Le premier, c'est que Jésus prépare une place à ses disciples par le don de sa vie, par sa mort et puis par sa résurrection. Jésus va les quitter, oui, pour mourir, pour donner sa vie pour eux, afin que de leur ouvrir le chemin jusqu'au Père, jusqu'à la demeure du Père, afin qu'ils puissent vivre pour l'éternité avec lui dans la présence du Père. Ce chemin, c'est Jésus lui-même. Il le dit d'ailleurs au verset 6, « Moi, je suis le chemin ». La vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Vous avez bien noté que Jésus affirme être le seul chemin. Pas un chemin, mais le chemin. Il n'y en a pas d'autre. C'est pourquoi nul ne peut venir au Père que par lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrira à Timothée que Jésus est le seul médiateur. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dira au début du livre des Actes que le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. C'est pourquoi Jésus dira que celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. C'est une certitude. Oui, c'est par son œuvre à la croix que Jésus, le chemin, nous ouvre l'accès jusqu'à son Père et qu'ainsi il nous prépare une place. C'est le premier aspect de cette promesse. Le deuxième aspect de cette promesse, de cette préparation annoncée, c'est l'œuvre qu'il va ensuite accomplir au ciel. Après sa résurrection, c'est son œuvre d'intercession pour les siens, Romains 8, verset 34. C'est son œuvre qui fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, Romains 8, verset 28. C'est son œuvre d'abolition de toute principauté, tout pouvoir et toute puissance, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, 1 Corinthiens 15. Versets 24 et 25, c'est la préparation de son retour, c'est la préparation de notre place auprès de lui pour l'éternité. Après avoir travaillé sur terre pour le salut de quiconque croit en lui, Jésus travaille actuellement au ciel à la préparation de son retour, qui est en même temps la préparation d'une place pour les siens. Cette préparation d'une place pour les siens par Jésus, ce n'est pas Jésus qui sort la bétonnière, la pelle, le sac de ciment et qui se met à nous construire une belle maison au ciel. Ce n'est pas ça, bien évidemment. C'est Jésus qui œuvre aujourd'hui et jusqu'à son retour à l'accomplissement plein et définitif du salut qu'il a accompli et que le Père a validé par sa résurrection. Notons ici que l'image de la demeure utilisée par Jésus au verset 2 est avant tout l'emblème d'un état spirituel, celui de la communion avec le Père. Une communion qui aura lieu quelque part dans le ciel, dans la présence de Dieu. L'image utilisée dans l'Écriture, c'est la nouvelle terre et les nouveaux cieux où la justice habitera. Notons encore que Jésus dit qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de son Père. L'idée ici, c'est qu'il s'agit d'une grande maison qui peut accueillir tous les disciples. La demeure est suffisamment vaste pour que chacun ait une place, sa demeure. Nous parlons ici de l'immensité de la miséricorde de Dieu. Et puis notons enfin que Jésus présente tout cela comme une certitude. Si ce n'était pas vrai, il le leur aurait dit, dit-il au verset 2. Il ne les aurait pas embarqués dans cette aventure pour les abandonner en chemin, si ce n'était pas vrai. Première promesse fait que les cœurs de ses disciples peuvent être en paix alors même qu'ils sont bousculés. Et cette première promesse, c'est que Jésus va leur préparer une place. La deuxième promesse faite par Jésus à ses disciples dans notre texte, après celle de la préparation d'une place, c'est la promesse qu'il reviendra les chercher. Jésus leur annonce donc que son départ n'est pas définitif. C'est pour un temps. Une fois leur place préparée, il reviendra les chercher pour qu'ils soient avec lui pour toujours. C'est aussi ainsi que l'apôtre Paul présente le retour du Seigneur dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Toujours avec le Seigneur. Et c'est aussi ainsi que Jésus dira, quelques instants plus tard, dans cette fameuse prière pour ses disciples au chapitre 17, verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » De quoi parle Jésus quand il dit « Je reviendrai » ? De quel retour s'agit-il ? Certains ont vu ici les apparitions après la résurrection. D'autres ont vu ici le retour du Seigneur par l'Esprit à la Pentecôte. D'autres encore son retour à la fin des temps. Le contexte de la préparation d'une place concrète où les disciples seront avec Jésus revenus les chercher laisse peu de doute de mon point de vue sur le fait que Jésus parle ici de son retour à la fin des temps. C'est véritablement là, à ce moment-là, quand Jésus reviendra à la fin des temps pour établir le tabernacle de Dieu avec les hommes sur la terre renouvelée c'est là qu'il habitera avec les siens. Comme nous le lisons à la fin du livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 3, « J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Ainsi, la deuxième promesse qui fait que les cœurs de ses disciples peuvent être en paix, alors même qu'ils sont bousculés, c'est que Jésus va revenir les chercher pour qu'ils soient avec lui pour toujours. Son départ annoncé est vraiment à leur avantage. Jésus part, certes, mais pour leur préparer une place. Jésus part, certes, mais il reviendra les chercher pour qu'ils soient avec lui pour toujours. Oui, les disciples pouvaient vraiment puiser du réconfort dans ces deux promesses. J'aimerais maintenant terminer en revenant à nous-mêmes. Nous venons de voir que nos cœurs, qui se troublent si facilement, peuvent être apaisés. Comment ? Par la foi en Dieu, par la foi en Jésus, et puis par l'espérance dans les promesses faites en particulier par Jésus. À ce stade, il y a deux questions qui s'imposent, je pense, à chacun de nous. Mon cœur est-il troublé ? C'est la première question que nous pouvons nous poser. Et la deuxième, c'est « Suis-je un disciple de Jésus ?» Si mon cœur est troublé et que je suis un disciple de Jésus, alors j'ai la possibilité de trouver en Jésus la paix du cœur, même au milieu de la tempête. Comment ? En croyant en Dieu et en croyant aussi en Jésus, en croyant les promesses de Jésus, en venant à celui qui est le prince de la paix, afin qu'il remplisse mon cœur de sa paix. Le texte bien connu d'Éphésiens 4, versets 6 et 7, est comme une feuille de route pour ce que nous sommes en train de dire. Écoutons-le, réécoutons ces versets. « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. » Que faire quand je suis dans l'inquiétude ? Que faire quand mon cœur est troublé ? Je dois simplement venir à Dieu par la prière et la supplication, dit Paul. Venir à Dieu pour lui ouvrir mon cœur. Venir à Dieu pour lui faire connaître mes demandes. Pour lui dire mon besoin de sa paix. Pour me décharger sur lui. Quelle est la promesse qui accompagne cette démarche ? Et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Une promesse sur 7000. C'est tellement simple et tellement compliqué à la fois. Simple parce que c'est un acte de confiance qui nous est demandé, un acte d'abandon. Simple parce que la vie de la foi est quelque chose que même un petit enfant peut comprendre et vivre. Et nous devons, dit Jésus, croire comme un petit enfant. Compliqué parce que ce lâcher prise qui nous est demandé ici est contre nature. Compliqué parce que notre nature pécheresse recherche constamment son indépendance vis-à-vis de Dieu. compliqué parce que notre orgueil nous pousse toujours à croire que nous pouvons y arriver par nous-mêmes. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la paix de Dieu dans le cœur, ce n'est pas nécessairement l'absence de difficultés. Parfois, la paix de Dieu dans le cœur coïncide avec la fin des problèmes, avec la fin de ce qui me trouble. Parfois, mais pas toujours. C'est pour cela que cette paix est une paix qui surpasse toute pensée, toute intelligence. C'est une paix qui ne s'explique pas. Parce que c'est une paix qui va à l'encontre des circonstances. C'est une paix que seul Dieu peut donner. Il est un cantique ancien que j'aime beaucoup et qui compare la paix de Dieu à un fleuve immense. Vous savez, ces fleuves qui emportent tout. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Parfaite elle avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente constamment son cours. Parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Fondée sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Oui, la paix de Dieu qui surpasse toute pensée, toute intelligence, est comme un fleuve immense qui suit son cours sans que rien ne puisse l'arrêter. Sans que rien ne puisse l'arrêter, si ce n'est parfois nous-mêmes. Mais c'est la raison pour laquelle je peux être persécuté et dans la paix de Dieu. Je peux être mal jugé et dans la paix de Dieu. Je peux être méprisé et dans la paix de Dieu. Je peux être malade, parfois même gravement malade, et dans la paix de Dieu. Je peux être dans des problèmes insolubles et dans la paix de Dieu. Pourquoi ? Parce que j'ai mis ma confiance en Dieu et aussi en Jésus. Parce que j'ai mis mon espérance dans les promesses de Dieu en Jésus. Oui, mais il reste un problème de taille. Un problème de taille. Si la démarche de venir nous décharger sur Dieu n'est pas toujours facile, celle de reprendre sur nos épaules ce que nous venons de déposer, ça c'est plutôt facile. Ainsi, il est tellement facile de nous inquiéter à nouveau pour la chose même que nous venons de confier. Que faire ? La solution se trouve sans doute dans l'exhortation que nous trouvons dans Colossiens 3, verset 15. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés en un seul corps règne dans votre cœur. Que la paix du Christ règne dans votre cœur. Nous devons laisser la paix régner dans notre cœur. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que ce qui est visé ici, c'est bien plus qu'un état passager, c'est un état qui doit durer, c'est un état qui peut durer quand nous lâchons prise, quand nous croyons que Dieu tient notre vie dans sa main, quand nous croyons qu'il est souverain même sur ce que nous ne comprenons pas. Même sur ce qui nous fait mal. Alors, quand nous sommes dans ce lâcher-là, nous pouvons cesser de nous inquiéter. Nous pouvons nous reposer en Dieu. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence peut régner dans notre cœur. Comme le dit le petit cœur que nous chanterons tout à la fin du culte, j'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main à travers l'orage grondant. Mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis Gardez. Gardez en paix. Gardez malgré tout ce qui peut troubler mon cœur. Dans la chambre haute, à ses disciples troublés, Jésus a dit « Que votre cœur ne se trouble pas. » Et c'est aussi ce qu'il dit à chacun de nous ce matin. Quelles que soient les circonstances que vous traversez, que nous traversons, que votre cœur ne se trouble pas. Puissions-nous chacun venir maintenant à lui pour recevoir de lui sa paix. Amen.